On vous souhaite un bon matin et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Mon nom est Claude Blas, bien assis à mon poste avec nos deux collaborateurs habituels dans un premier temps. On va les retrouver tout de suite, Franceline Nieuvart.
Comment allez-vous? Oui, ça va bien.
Oui. Oui. Alors, les trottoirs glacés ce matin?
Oui, impilièrement, mais bon, ça va.
Quand même.
On est arrivé à bon port.
Alors, vous allez nous lire quelques articles
oui,
ce matin.
Oui, moi je vais vous lire dans... J'ai le dossier du Oh, pardon, excusez-moi, je reprends.
Allez-y.
Le dossier de l'itinéraire du numéro de février 2018 mm-hmm. porte sur le thème de l'alimentation. Sommes-nous ce que nous mangeons ? Et je vais vous lire donc un article qui s'intitule « Mythes ou réalités alimentaires ». C'est un peu toutes nos croyances, est-ce que c'est vrai, pas, etc. Et donc vous allez avoir ça. C'est par Alexandra Guélil. Et après, comme c'est la période olympique, j'ai trouvé dans Le Bel Âge de février 2018... Un texte écrit par Linda Priestley sur Pierre Harvey, qui est le père d'Alex. Mm-hmm. Et ça s'intitule « On joue dehors ».
Ah, voilà. Parfait. Et Monsieur Roger Roy,
ouais,
comment
bonjour,
allez-vous?
Bonjour, ça va très bien.
Après une petite semaine de vacances,
oui,
ça a bien été?
Oui, qui fait fort. Oui, fait fort. Beaucoup de bien.
Beaucoup de bien.
Oui, du soleil.
Ah, c'est
27,
bien.
28, 29, mais.
Ah, quand même.
Ah, oui.
OK, on va passer maintenant au sujet.
Au-dessus de zéro.
Au-dessus de zéro, oui, quand même. Alors, vous allez nous lire quel article?
Au sujet, après 40 ans, le BAP qui évalue sera à son tour évalué. Mm-hmm. C'est mon premier texte.
Okay.
Et deuxième texte, c'est « Une vie passée à faire du beau ». Enfin, à faire du beau aussi. C'est un monsieur qui fait du design industriel, mm-hmm. et qui s'appelle Monsieur Michel Dallaire.
Ah, d'accord. Et de mon côté, j'ai trouvé deux articles sur le site blog, qui est passeport-santé.net. Je vous donne des petits trucs ce matin pour savoir comment être soi-même, imaginez. Et je vous parle aussi de gluten. Alors, je vous rappelle qu'on est à l'édition du 12 février 2018. On vous souhaite un bon matin. On vous revient dans quelques instants. Alors, Franceline, on débute avec vous.
Oui, alors, sommes-nous ce que nous mangeons? C'est ce qu'écrivait le philosophe allemand Ludwig Feuerbach, mais est-ce vrai? En schématisant, notre alimentation est comme le carburant du moteur d'une voiture. La qualité des molécules qui nous constituent et qui nous font fonctionner est garante de la qualité de la santé de l'ensemble de notre organisme. En d'autres termes, une mauvaise alimentation peut donc mettre à mal notre santé. Donc, dans le dossier qui est du journal L'Itinéraire, ils explorent des mythes et des réalités liées au contenu de notre assiette. L'alimentation étant commune à tous, il est tentant de donner de la crédibilité à nos croyances ou oui-dire de notre enfance. Alors voilà, donc on va passer en revue quelques mythes et réalités. Et c'est la nutritionniste Stéphanie Côté qui, pour Extenso, qui est le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal, qui revient sur ces mythes et réalités qui concernent notre alimentation. Et elle dit « Dans ce domaine où tout le monde a ses idées, son vécu et ses habitudes culturelles ou familiales, tous ont une opinion sur le contenu d'une bonne assiette. Cela donne lieu à des histoires et légendes urbaines venant de partout, parfois même de nos grands-parents, comme si nous étions tous en mesure de nous prononcer sur l'alimentation. » Ces idées reçues ne viennent pas uniquement des individus et peuvent provenir des compagnies alimentaires qui présentent leurs aliments d'une façon pouvant faciliter sa marchandisation, quitte à parfois faire une distorsion de la réalité. Si déconstruire les mythes alimentaires à l'aide de données probantes et aisées, changer la perception du public l'est moins. Alors donc, on passe en revue quelques mythes. Le premier, manger avant de se coucher ferait engraisser. Il faut rappeler que lorsqu'on grossit, maigrit ou que l'on maintient son poids, c'est vraiment une question d'équilibre énergétique, de calories absorbées dans la journée ou au fil des journées. Ce n'est pas juste après une journée où l'on a trop mangé que l'on engraisse. Si l'on n'a pas mangé de la journée et que l'on mange le soir, toute l'énergie dépensée dans la journée versus les apports s'équilibreront. Là où cela peut faire une différence, c'est lorsque ce qu'on mange le soir dépasse les calories dépensées. Si on a mangé 3 repas pendant la journée, notre corps n'aura pas besoin d'apports supplémentaires en soirée. Une collation en fin de journée pourrait représenter des calories supplémentaires dont le corps n'a pas besoin. Manger le soir comporte aussi des pièges. Certaines personnes vont se priver dans la journée et le soir venu, la frustration de ne pas avoir mangé peut faire qu'elles mangent plus que nécessaire. C'est aussi ce qui arrive lorsqu'on mange devant la télévision, puisqu'on est moins attentif à notre faim et que l'on peut rapidement dépasser la limite. Deuxième mythe ou croyance. La limite est de 3 repas par jour et de 2 collations pour tous les individus. Non. Nous avons tous un modèle d'alimentation qui peut nous convenir. C'est vraiment une question de quantité d'aliments avalés au fil de la journée. Cela dépend de nos activités physiques et de bien d'autres facteurs qui font varier la faim et l'appétit. Chaque personne a des besoins très spécifiques. On ne peut donc pas prescrire une alimentation identique pour tout le monde. Lorsqu'on est à l'écoute de nos signaux de faim et de satiété, on comprend la quantité d'aliments que l'on peut manger. Les carottes sont une bonne préparation au bronzage. Il va falloir manger beaucoup, beaucoup de carottes pour commencer à avoir une teinte orangée de salon de bronzage cheap. Dans la carotte, il y a un pigment qui s'appelle le bêta-carotène. C'est ce qui donne la couleur orange à cet aliment. Et c'est un élément précieux pour la peau en raison de ses vertus antioxydantes. Cet aliment peut donc avoir une action sur la peau et son vieillissement, à condition d'en manger régulièrement. Si l'on en mange beaucoup, il peut arriver que certaines personnes le métabolisent différemment en ayant un début de couleur de peau un peu plus teinté orangé. Mais de là à faire cela en prévision de la belle saison, non. Frotter le bout d'un concombre enlèverait son amertume. Je ne sais pas quoi dire pour celle-là, parce que ma grand-mère faisait cela et ce n'est pas scientifiquement explicable, ça ne se démontre pas vraiment. Je crois qu'il y a un petit quelque chose de culturel, d'habituel, voire même un effet placebo, mais scientifiquement, ça ne se comprend pas. Donc, frotter ou pas le bout du concombre. Boire du thé avec des épinards éliminerait le fer qu'ils contiennent. Ce n'est pas tout à fait cela. Le fer qui se trouve dans les aliments végétaux, appelé le fer non hémique, est moins bien absorbé que le fer qui se trouve dans la viande. Si l'on consomme du thé au même moment ou tout de suite après un repas composé d'aliments végétaux, cela nuira à l'absorption de ce fer. Notre corps l'assimilera donc moins bien. Par contre, boire du thé n'éliminera pas le fer que nous avons déjà accumulé. C'est vraiment ciblé au repas. C'est pourquoi l'on recommande d'attendre 2 heures après le repas avant de boire un thé si c'est un repas végétarien. Autre mythe, après un cancer, il vaut mieux éviter le tofu en raison des estrogènes. On dit souvent cela dans le cas de cancers hormonodépendants. Mais peu importe le type de cancer, manger du tofu ou boire des boissons de soya à l'occasion n'est pas un problème en soi. Le problème vient plus si l'on consomme des suppléments de phytoestrogènes ou soya. Il faut rappeler que les aliments sont rarement un problème, c'est beaucoup plus souvent les suppléments qui le sont. Un dernier avant une petite pause peut-être. Les boissons gazeuses et boissons énergisantes sont à éviter. On parle plus des excès. Lorsque les boissons gazeuses viennent avec le trio au fast-food, cela contribue au fait que l'on ingère une quantité énorme de calories en peu de temps. Le gros problème, c'est qu'il s'agit du sucre concentré dans un format énorme, souvent à volonté. Les boissons sucrées sont des calories absorbées rapidement qui ne rassasient pas. Notre corps ne les délecte pas, c'est comme si l'on buvait de l'eau, sauf qu'il s'agit de calories supplémentaires. Quant aux boissons énergisantes, c'est aussi du sucre liquide auquel on rajoute de la caféine et autres substances comme le guarana. Il peut arriver que des personnes qui prennent un café et une boisson énergisante dans une journée dépassent ainsi les limites quotidiennes de caféine et elles ressentent des palpitations. Il peut aussi arriver que certaines personnes mélangent ces boissons avec de l'alcool, ce qui n'est pas idéal puisque les effets sont contradictoires. On peut sentir que l'on est en contrôle alors que l'on est très affecté. Autre problème, beaucoup de jeunes prennent ces types de boissons et y sont plus sensibles à la caféine que les adultes. On fait une petite pause et je vous reviens encore avec quelques minutes.
J'ai bien hâte d'entendre le reste. On va laisser Franceline reprendre son respire.
Merci.
On vous revient dans quelques instants. De retour avec le reste de l'article, Franceline.
Oui, alors, manger du fast-food est mauvais pour la santé. Ici, on parle davantage des effets chroniques et de régularité. Si l'on en mange tous les jours, il faut se rendre compte que cela manque cruellement de verdure et de légumes, que c'est gras et salé, la recette parfaite pour augmenter les risques de maladies chroniques, genre maladies cardiaques, hypertension, obésité, diabète. De jour en jour, nous mangeons la même quantité d'aliments. Et lorsqu'on mange des aliments denses en calories comme ceux que l'on retrouve au fast-food, cela fait en sorte que l'on mange plus parce que on n'est pas rassasié très longtemps. On ingurgite donc beaucoup de calories en peu de temps. Aussi, il existe un lien très important entre la santé et notre flore intestinale, le microbiote. Le fast-food, à cause du gras, du sel, des additifs, du manque de fibres alimentaires, déséquilibre le microbiote, ce qui augmente les risques de toutes les maladies. La viande rouge est mauvaise pour l'organisme. Ça dépend. L'idéal est d'en manger modérément. Manger trop de viande rouge tous les jours, surtout lorsqu'elle est transformée comme dans les charcuteries, peut augmenter les risques de cancer, entre autres. Si l'on en mange une fois de temps en temps avec des végétaux et des légumineuses, les risques sont diminués. Les points négatifs reliés à la viande rouge sont liés à l'environnement. Élever des animaux pour récupérer la viande prend énormément de ressources. Il y a donc un côté environnemental et éthique qui joue en défaveur d'une consommation importante de viande rouge. Alors, devenir végane est la solution à tous les maux ? Je crois plutôt que la meilleure solution est d'être flexitarien, c'est-à-dire manger de tout, être flexible donc. Mais si les enjeux éthiques nous préoccupent, il faudrait se permettre de se tourner vers des aliments locaux. Manger végétarien, mais se nourrir de bananes ou kiwis de la Nouvelle-Zélande, c'est oublier qu'il y a des impacts sur l'environnement, notamment en raison du transport de ces fruits. Certains territoires peuvent être détruits pour permettre de les produire, des personnes peuvent être exploitées aussi. Avoir une alimentation responsable ne rime pas forcément avec le véganisme. C'est plutôt se poser des questions sur toutes les catégories d'aliments qu'on veut mettre dans notre assiette. Le bœuf soignerait un œil au beurre noir. Je crois que c'est une belle recette de grand-mère pour faire taire les plaintifs. L'œil au beurre noir concerne plus souvent un homme qui vient de se battre et puisqu'il a très mal, un steak peut faire partie d'une solution plus virile. S'il est bien froid, cela peut, à la limite, devenir comme une compresse fraîche et encore. Ça, c'est un mythe vraiment... Je ne sais pas s'il existe encore, mais enfin, voilà. Le sucre, enfin, c'est le dernier, le sucre est un excitant. Le sucre donne de l'énergie, c'est certain. Il y a une différence entre donner de l'énergie et être excité par cette consommation. Mais ce n'est pas le sucre en soi qui est problématique. Dans le cas des enfants, c'est souvent une question de contexte dans lequel on mange les sucreries. Il y a quelque chose dans la fête ou les événements qui font en sorte que les enfants sont excités sans que ce soit le sucre en tant que tel le coupable. En donnant un bonbon à un enfant un dimanche après-midi en lui faisant la lecture, il ne se mettra pas à sauter partout. Donc c'est toute une nuance effectivement. Alors voilà, c'était quelques mythes ou réalités alimentaires que Alexandra Guélil a écrit dans le journal L'Itinéraire du 1er février 2018.
La question à se poser, est-ce qu'on peut encore manger?
Ben oui.
Ouais.
Être flexible. Hein, moi, j'ai retenu flexible. Ça. Le flexitarien, j'ai aimé ce mot-là.
Un peu plus tard, dans la demi-heure, je vais vous parler du gluten à mon tour.
Oui,
donc
absolument.
C'est un peu en lien avec vous.
Oui.
On s'en va à une petite pause et on revient avec Roger.
Papa, ah, 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 on s'est démaquillé, on a mis du phare sous nos joues, on s'est éteint, déraillé.
On aura sans doute reconnu Alex Nevsky. Je trouvais que le titre de la pièce était tout indiqué pour aller avec l'article de Franceline. On leur a fait croire.
Merci Jean-Sébastien.
Merci. Roger veut nous parler d'un article qu'il a retrouvé dans le magazine Relations.
C'est ça. 40 ans plus tard, que reste-t-il du BAP? Ça apparaît dans la revue Relations de février sous la rubrique Débat. Créé en 1978, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, souligne cette année ses 40 ans. Souvent cité en exemple, cette instance de consultation publique se heurte toutefois à d'importantes limites liées entre autres à sa subordination au pouvoir politique. Faut-il la réformer, la revoir complètement, réfléchir à d'autres modes de participation citoyenne? Nos auteurs invités en débattent. Ses auteurs, ce sont Marie-Ève Maillé, professeure à l'UQAM, qui en résumé exprime l'idée qu'il faut renforcer les pouvoirs de cette institution qu'elle qualifie d'essentielle. L'autre auteur est Sylvie Paquereau de l'Université d'Ottawa, qui, elle, exprime l'avis que même en réformant le BAP, ce sont les efforts pour convaincre la population qui compte. Voici des extraits de ce qu'a écrit Marie-Ève Maillé. Lors des audiences publiques sur le projet éolien de l'érable dans les bois francs en 2009, la compagnie Enerfin, filiale du géant espagnol de l'énergie Elecnor, détenant alors déjà 800 mégawatts de puissance éolienne dans le monde, avait admis que c'était la première fois qu'elle était soumise à un tel examen public de ses impacts. Forcée de rendre des comptes à la population, elle a été fortement critiquée par la commission chargée d'évaluer son projet. Mais voilà, cela n'aura rien changé. Les pales des éoliennes de l'érable tournent depuis 2013 et les riverains espèrent obtenir réparation dans un recours collectif qui sera entendu au printemps 2018. À quoi aura servi le BAP? Comme souvent, il aura servi d'excuse aux élus pour ne pas informer ni consulter la population. À partir du moment où une consultation du BAP est annoncée, les décideurs locaux se sentent trop souvent exemptés de leurs devoirs les plus élémentaires. Les citoyennes et les citoyens interviennent alors quand tout est décidé et que changer les plans entraîne des coûts et des retards. Au BAP, les citoyens n'ont qu'une possibilité très limitée d'influencer les projets, ce qui alimente leur frustration. Ainsi, le délai entre la phase d'information, c'est-à-dire l'examen d'une surabondance d'informations techniques et la phase de la consultation est beaucoup trop courte, ce délai n'est que de 21 jours. Ensuite, là, les audiences sont publiques et cette période correspond à des pics de tension qui affectent profondément la cohésion sociale dans les collectivités aux prises avec de grands projets qui divisent. Ces tensions perdurent si le gouvernement tarde à rendre une décision après un rapport du BAP critique ou mitigé. Même lorsque les projets sont abandonnés, les dommages au tissu social des communautés concernées sont déjà réels et celles-ci mettront du temps à guérir. Pourtant, ces impacts sociaux sont encore trop souvent négligés. Autre source de frustration citoyenne vis-à-vis du BAP, d'une fois à l'autre, tout recommence à zéro, comme si on ne pouvait tirer les leçons des commissions précédentes. Dans le dossier de la mine à ciel ouvert canadienne Malartic, en Abitibi par exemple, les citoyens se sont livrés deux fois à l'exercice des audiences du BAP en 2009 et en 2016. La deuxième fois, certaines personnes reposaient les questions posées 7 ans plus tôt. Même histoire dans l'éolienne. Le ministère reconnaît depuis 2009 que sa directive sur le bruit n'est pas adaptée au bruit des éoliennes. Toujours en révision, la règle désuète n'a pas empêché l'autorisation d'une quinzaine de projets depuis. Alors que faire? Faut-il se débarrasser du BAP? Non, croit Marie-Ève Maillé, il faut plutôt lui donner des dents, car une institution indépendante qui évalue les projets de façon globale et non pas en silos est un élément essentiel d'une démocratie vigoureuse. Comment faire? Il faut permettre au BAP de comparer les scénarios, y compris celui du statu quo, d'évaluer si la localisation des projets est la bonne, de tenir davantage compte des impacts sociaux, de mener une analyse des impacts différenciés selon les sexes, de faire le suivi des engagements des promoteurs et surtout de rendre ces avis contraignants, forçant les gens à les respecter, entre autres réformes nécessaires. Quant à Sylvie Paquereau, elle écrit « Le BAP pourrait avoir une certaine utilité, mais pour elle, la lutte citoyenne sur les enjeux environnementaux demeure nécessaire. En effet, le BAP a pour mission d'évaluer des projets spécifiques. Lorsque les projets soumis pour consultation soulèvent une question de fond touchant les orientations de développement et de la société, le BAP n'est pas conçu pour l'aborder et y répondre. La question des énergies fossiles et des hydrocarbures illustre clairement cette limite. Si techniquement, à travers des audiences du BAP, il serait possible d'empêcher certains projets un à la fois, ces mécanismes ne permettent pas d'interpeller plus généralement le gouvernement lorsqu'il se traîne les pieds en matière de lutte au changement climatique. En faire un débat politique exige de sortir des institutions. Ensuite, la capacité du pouvoir politique de contourner ou de réduire la portée de ses propres mécanismes de consultation exige que l'on puisse porter la controverse au-delà du cadre institutionnel du BAP. Lorsque des positions minoritaires, ce qui est souvent le cas des luttes pour la préservation de l'environnement dans nos sociétés obsédées par la croissance et le taux de chômage, existent, dans de telles situations, seule l'action politique, y compris l'activisme judiciaire, pourra donner droit de cité à ces positions minoritaires. Ici, ce sont les batailles au nom des droits humains qui donneront leur légitimité à ces contestations, parfois même contre la majorité. La situation actuelle concernant la protection des ressources en eau contre l'exploitation des hydrocarbures en est un bel exemple. Peu importe que la population soit majoritairement pour ou contre tel ou tel projet, c'est au nom de leur responsabilité de protéger les sources d'eau que des centaines de municipalités au Québec contestent le pouvoir du gouvernement de les empêcher d'adopter leur propre réglementation. Bref, pour ces raisons, des mécanismes de consultation et de participation tels que le BAP, même réformés, ne pourront assumer toutes les dimensions de controverses environnementales. Alors, c'est un débat qu'on peut lire dans le magazine Relations, édition du mois de février. 40 ans plus tard, que reste-t-il du BAP?
Eh, il y a toujours un travail à faire pour actualiser les façons de faire, hein?
Certainement.
En lien un peu avec l'article que Franceline nous a lu un peu plus tôt dans l'émission, eh bien moi je vous parle de sans gluten, un article que j'ai trouvé sur le site de passeportsanté.net, un site très intéressant, soit dit en passant. C'est un site de blog, mais très intéressant. Et le sans gluten, ben, on dit la nouvelle tendance de ce fameux sans gluten, ben, c'est impossible de passer à côté. Dans les grandes surfaces, il s'affiche un peu partout et a même son propre rayon. Chaque jour, les industriels inondent toujours un peu plus les magasins de ces nouveaux produits supposés bénéfiques pour l'organisme. Qu'en est-il vraiment? Faut-il abandonner le gluten? Le blé a longtemps eu cette image d'aliment respirant la santé. D'ailleurs, sa consommation a considérablement augmenté au cours de la seconde partie du 20e siècle, tout comme l'espérance de vie. Il est même devenu plus apprécié que le riz en Chine et en Inde. Mais depuis peu, tout a changé. Une nouvelle tendance s'est installée en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, même au Canada. Éviter la consommation de blé, et plus particulièrement de gluten, cette grosse molécule formée naturellement lors du pétrissage de la farine de blé. La tendance est si prononcée que la consommation de blé a commencé à décliner. Et certes, il existe bien une pathologie liée au gluten qu'on appelle la maladie cœliaque, mais celle-ci ne toucherait qu'à peine 1% de la population. Alors faites attention un petit peu au gluten si vous voulez en manger, mais consultez surtout une nutritionniste. Ça devrait avoir la peine. On s'en va à la pause et la deuxième demi-heure s'en vient.
quitte pas, avec le temps va, tout s'en va. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Avec le temps, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tout va bien. Avec le temps, je ne vais plus pleurer. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Et l'on se sent blanchir comme un cheval fourbu, et l'on se sent tout seul peut-être par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, ne me quitte pas, on n'aime plus.
Edgar Bory aime bien se distinguer. Il a sorti une trilogie d'albums nommée respectivement Bory Salade, Bory Balade, Bory Malade. Et cette pièce est un extrait de donc de Bory Salade. Et on a pu reconnaître Brel et Ferré avec Le temps ne me quitte pas. Et le titre de la pièce est donc Brel Ferré.
Vraiment intéressant comme musique, vraiment. Alors Roger, on parle de la vie, est-ce qu'elle est belle?
Oui, c'est quelqu'un qui s'est consacré à en faire quelque chose de beau, des beautés d'art du monde, un petit peu comme Brel et comme Ferré. Non? Savez-vous que ça c'est un texte que je suis allé lire dans l'actualité du mois de février, il est signé par Christian Malavoie. Savez-vous que du 8 février au 10 mai, le Musée national des beaux-arts du Québec présente une grande exposition des œuvres du sculpteur Alberto Giacometti? Vous en entendrez parler bientôt, vous l'entendez déjà. C'est une exposition majeure. Par ailleurs, actuellement, si vous allez à Québec, et jusqu'au mois de septembre, le Musée de la civilisation présente une rétrospective du travail de Michel Dallaire. C'est un géant du design québécois. Évoquer Michel Dallaire, c'est penser, entre autres, parce qu'il y en a, beaucoup d'autres œuvres qu'il a réalisées, dont je vais un peu vous parler, c'est penser au Bixi de Montréal. Dans les 28 villes où roule le Bixi, dont Londres et New York, il revient toujours à son point de départ, le Bixi, d'où l'allure de boomerang du Bixi. C'est de là, hein, ça c'est du design de Michel Dallaire. Christian Malavoie, comme je vous dis, nous le présente dans son texte. À 75 ans, le père du vélo en libre-service Bixi, du moniteur pour surveillance, moniteur de surveillance pour bébé Angel Care, du mobilier de lecture de la grande bibliothèque et de tant d'autres formes devenues familières, fait l'objet d'une introspective au Musée de la civilisation à Québec. Une expo qui a pour point de départ le don que Michel Dallaire faisait au musée en 2012 de quelques 150 de ses créations, assorti de divers plans, prototypes et autres maquettes, le tout formant le plus grand ensemble de documents consacrés au design industriel québécois. Malgré tout ce qui les sépare, ces réalisations avaient quelque chose en commun, la contrainte. Contrairement aux peintres, je ne suis pas libre. C'est un art appliqué, le design industriel, dit Michel Dallaire. D'abord, il faut composer avec les délais fixés. Ensuite, il y a la question de matériaux, les usines disponibles, tout le jeu de la concurrence. Il admet qu'il ne serait pas créé sans cet ensemble d'exigences. Je ne sais pas comment font les peintres. Je serais perdu devant une toile blanche. Moi, j'ai besoin d'un problème pour trouver une solution. La journaliste Myriam Gagnon, qui suit le travail du designer depuis des années et qui signe d'imposantes monographies accompagnant l'exposition, souligne dans son avant-propos cette visée de l'aspect pratique, du haut de ses quelques 250 créations. Il continue à nous rendre service. Toute sa vie, Michel Dallaire a travaillé d'arrache-pied, mais avec le recul, il parle aussi de chance, la chance qui a été la sienne après ses études à Stockholm au début des années 1960, de revenir dans un Québec qui s'éveillait à la modernité et où les occasions étaient nombreuses pour ceux qui se saisissaient des codes, Expo 67 s'en venait, j'ai collaboré à certains projets pour le compte du bureau Jacques Guillon et Associés. J'ai conçu entre autres une représentation 3D du cerveau humain qui était une pièce centrale du pavillon thématique « L'homme et la vie ». J'ai aussi travaillé à l'aménagement intérieur des appartements d'Habitat 67 auprès de l'architecte Moshe Safdi. Plus tard, à l'approche des Jeux de 1976, on allait lui demander de concevoir non seulement la torche olympique, mais aussi tout le mobilier du village olympique. On entrait dans une période extrêmement féconde et il y avait peu de gens à Montréal qui savaient faire ce que je faisais. En 2014, le designer s'est retiré dans sa maison de campagne au pied du Mont Harford, mais après 4 mois, il acceptait une offre du bureau de design Provencher-Roy, où il agit depuis comme conseiller. Ma femme me dit toujours « Arrête de dire oui, repose-toi ». Or, pour Michel Dallaire, garder la forme et rêver les formes sont deux choses indissociables. Il pose d'ailleurs un œil averti sur celles qui définissent le Québec actuel. S'il considère les nouvelles voitures du métro de Montréal comme plutôt réussies, certains éléments ayant poussé récemment dans le paysage de la métropole le laissent perplexe. Les bornes de rechange pour véhicules du circuit électrique, par exemple, qu'ils trouvent laides, avec leurs longs fils qui pendouillent dans le vide. Dans le quartier international dont j'ai conçu le mobilier urbain, l'effet est assez désolant. J'avais élaboré une signature visuelle et voilà qu'on débarque avec un tout autre vocabulaire qui n'est pas harmonieux. Il me semble qu'on aurait pu intégrer des fils rétractables à tout le moins. Peut-être même les véhicules, d'ailleurs, comme ceux d'un aspirateur Electrolux. Le designer aimerait que le Québec s'inspire davantage de la manière scandinave, notamment basée sur un répertoire de matériaux qui contraint les architectes et designers à composer avec une sorte d'alphabet préétabli. À Montréal, chacun joue sa partition, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Il y a beaucoup de normes appliquées aux bâtiments classés, ça oui. On n'a pas le droit de changer la porte d'un immeuble patrimonial ou encore on doit la remplacer à l'identique. En revanche, du côté du bâtiment neuf, c'est le « free for all » ou presque, déplore celui qui préconise mi-sérieux, mi-amusé, la création d'un ministère du beau. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Le problème, c'est que ce serait difficile d'en choisir un ministre. En plus du Bixi, voici quelques exemples des réalisations du designer industriel Michel Dallaire. La quenouille qui trempait dans de l'huile, gamin, avant d'y mettre le feu, est devenue la torche des Jeux de Montréal. Le maire drapeau ne l'aimait pas, il espérait un bijou. Je suis arrivé avec un outil pour transporter la flamme. La bouteille d'eau de Javel Lavaux, désirable pour la main, date de 1996. Pour son moniteur de surveillance pour bébé Angel Care, né en 1998 et vendu à des millions d'exemplaires, Dallaire s'inspire des angelots de la Madone Sixtine et du satellite russe Sputnik 2. Du geste de sa grand-mère qui faisait jouer le mécanisme de son porte-monnaie à fermoir au moment de la quête à l'église, il fera naître en 1993 le porte-document Snapcase, vendu à des millions d'exemplaires. Une vie à faire du beau.
Quand même.
C'est quand même Michel Dallaire, designer industriel.
Merci beaucoup, Roger. C'est vrai qu'il en fait du beau, quand même. Hein? Je reviens dans quelques instants avec un article « Comment être soi-même en trois leçons ». Je vous les donne, les trois leçons, tout de suite après.
Grâce à Angel Care ici, là.
Alors, Roger qui est en train de me montrer de magnifiques photos de son article. Alors, comment être soi-même en trois leçons, le savez-vous? Ben, je vais vous le donner. On dit que tout autour de nous, on entend de plus en plus parler de développement personnel, d'accomplissement de soi, de confiance en soi. Alors, comment devenir soi-même? Ben, voici les trois pistes pour vous éclairer. Devenir soi-même n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et pourtant, si l'on ne laisse pas sa personnalité vivre pleinement, on risque de passer à côté d'une belle partie de son existence. La première leçon, la réponse à l'interrogation « Qui suis-je ?» est vraiment complexe, car elle revêt une multitude d'aspects et de critères qu'il serait difficile d'énumérer, tant ils font partie intégrante de ce que nous sommes et habitent au plus profond de notre être. Chacun détient en lui-même un héritage éducatif, familial, historique, culturel, social et religieux, qui peut nous prédestiner et dont il peut être difficile de se différencier. Malgré tout, nous vivons dans une époque où le plein accomplissement personnel, loin des préjugés et des prédispositions sociales et culturelles, est l'outil indispensable pour être heureux et réussir sa vie. Mais est-il vraiment possible et souhaitable de se détacher de ce qui nous a construits? Ne risquons-nous pas de nous sentir quelque peu démunis, isolés, orphelins? Sans rester cloisonnés ou conditionnés par votre héritage, sachez faire le tri de ce que vous voulez pour votre propre vie et de ce que vous ne voulez pas transmettre. La leçon 2, ben faites le point sur vos qualités et vos défauts. Pour se connaître vraiment, il faut accepter de se regarder dans la glace et prendre tout ce qui nous constitue. Les qualités et les défauts, le positif et ce qui l'est moins. Si l'on se voile la face sur certains défauts, qu'ils soient physiques ou qu'ils fassent partie de notre caractère, on se ment en soi-même et l'on peut avancer car on ne sera jamais pleinement soi-même. En revanche, ne vous laissez pas submerger par les remarques parfois désobligeantes de certaines personnes de votre entourage. Cela pourrait mettre en avant tel ou tel défaut, vous omnibuler et par conséquent vous faire oublier que vous n'êtes pas que cela. Écoutez-vous. Ouvrez-vous à vos réactions et à vos sentiments face aux situations que vous vivez. Acceptez vos erreurs passées et présentes et acceptez de changer. On n'est pas le même à 8 ans, 15 ans, 35 ans ou 60 ans. Et la troisième leçon, ne vous comparez pas aux autres. Pour être soi-même et permettre à sa personnalité de s'exprimer pleinement, les effets de la mode peuvent être néfastes. Qu'ils soient vestimentaires ou qu'ils relèvent des loisirs ou des courants de pensée, nous sommes souvent guidés par ces effets de masse qui nous empêchent de choisir en vérité pour nous-mêmes. Tout le monde fait du yoga? Et si pour moi l'escalade est plus épanouissante? Les vêtements ont aussi une grande part de responsabilité dans l'affirmation de soi. Alors, faites-vous plaisir et déplacez le curseur où bon vous semble. Le regard des autres aura de moins en moins d'impact sur vous-même au gré de cette quête intérieure. Vous aurez pris davantage confiance en vous et vous saurez alors qui écouter, non pas ceux qui ont un impact négatif sur vous, mais ceux qui veulent votre bien et vous aident à grandir. À vous de choisir de votre entourage. Ayez confiance en vous. Faites grandir votre estime de vous. Soyez indulgent avec vous-même. Entre un égo surdimensionné et un regard juste sur soi, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Mais patience, le temps travaille avec vous. Et vous voulez savoir c'est quoi les troubles de l'estime de soi? Ben, les troubles de l'estime de soi, c'est un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. L'estime que l'on va avoir de soi dépendra de beaucoup de paramètres. L'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques et intellectuelles. Ils sont autant de variables qui vont influencer le jugement que nous portons sur nous-mêmes. L'estime de soi se construit durant l'enfance et évoluera au cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec. Une faible estime de soi pourra entraîner un mal-être et des difficultés dans les relations avec les autres personnes. Elle sera également un facteur de risque pour le développement de troubles psychologiques. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ne se trouvent jamais assez bien, jamais à la hauteur et en souffrent terriblement. Au contraire, une estime de soi très haute pourra amener la personne à avoir des comportements et des attitudes souvent mal perçues par les autres, qui verront souvent en elle une personne hautaine et un peu trop sûre d'elle. Une estime de soi très haute peut conduire la personne à avoir des conduites à risque, se pensant à l'abri de tout. Enfin, une bonne estime de soi correspondrait à une estime de soi satisfaisante, ni trop faible ni trop élevée, ce qui favorise l'épanouissement relationnel et le bien-être personnel. Depuis quelque temps, les chercheurs et les médias s'intéressent de près à l'estime de soi et de nombreuses actions de santé s'organisent pour développer cette bonne estime de soi. Cette démarche permettrait aux enfants et aux personnes de s'épanouir dans de nombreux domaines et leur éviterait de développer des troubles tels que la dépression et certains troubles anxieux. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé sur le blog de passeportsanté.net. Allez jeter un petit coup d'œil, il y a des articles très, très intéressants. Alors, peut-être un lien sur le prochain article, Franceline, avec les Jeux de Pyeongchang.
Oui, absolument. En fait, oui, absolument. Parce que, effectivement, dans la revue Le Bel Âge de février 2018, dans la rubrique Inspiration, on trouve ça chaque mois, Linda Presley fait une entrevue avec Pierre Harvey, qui est le papa d'Alex, qui est le fondeur là, qu'on attend. Je pense qu'il n'a pas encore commencé.
Il a terminé huitième, mais quand même, il est satisfait.
Ah, d'accord. Ben, vous voyez, j'avais pourtant essayé de guetter ça, mais bon, je ne l'ai pas entendu. Alors, Pierre Harvey, ce légendaire fondeur et cycliste olympique, jouer à l'extérieur est toujours venu naturellement. Un plaisir que l'athlète, devenu papa, a toujours partagé avec ses enfants. Donc son fils participe cette année aux Jeux Olympiques, comme vous venez de le dire. Si ces trois jetons élevés au grand air ont la piqûre, ce n'est pas seulement à cause de lui, assure Pierre Harvey, 60 ans aujourd'hui. Bien qu'Alex, 29 ans, Sophie, 27 ans et Laurence, 25 ans, aiment se dépasser depuis qu'ils sont tout petits, cadeau des gènes sûrement, c'est l'anticipation d'aller au club de ski qui les tirait tôt du lit les matins de fin de semaine. Ils avaient tellement hâte de retrouver leurs amis et de placoter de tout et de rien, se souvient Pierre en riant. Heureusement, notre as de l'endurance était en mesure de suivre ces trois diablotins sportifs et sociables. Comme j'aimais ça autant qu'eux, je les accompagnais de bon cœur. Et chez nous, on fait souvent les choses en famille et entre amis. Il faut dire aussi que l'environnement est propice aux jeux extérieurs. À Saint-Féréol-les-Neiges, c'est là où ils habitent, on a la chance de pouvoir pratiquer une multitude d'activités comme le vélo de route et de montagne, le ski de fond, la raquette, la motoneige. On est même des coureurs de bois aguerris. Pierre Hervé, donc, ayant participé à ses premiers Jeux olympiques à Montréal 1976 à l'âge de 19 ans en tant que cycliste, il n'est pas tombé en bas de sa selle en découvrant que son aîné, Alex, partageait son goût de la performance. C'est sur les pistes enneigées, toutefois, qu'Alex a voulu emboîter le pas à son père, un désir que ce dernier n'a jamais découragé ni poussé d'ailleurs. « J'ai toujours soutenu Alex comme je l'ai fait avec tous mes enfants, en respectant les choix de chacun. » L'influence familiale y est toutefois certainement pour quelque chose, admet-il. Après tout, lui-même, qui boudait le sport et préférait regarder la télé en mangeant des chips quand il était petit dans sa ville natale de Rimouski, a fini par suivre l'exemple de ses quatre grands frères et sœurs plus actifs. D'abord nageur, il a participé aux Jeux du Québec à 13 ans. Il a ensuite délaissé la brasse pour enfourcher un vélo de route, puis éventuellement chausser des skis de fond. En 1984, il est devenu le premier Canadien de l'histoire à participer à deux Jeux olympiques dans la même année et dans deux disciplines différentes, à Sarajevo et à Los Angeles. Effectivement, en tant que fondeur et cycliste, on pouvait faire cet exploit-là. Revit-il le passé à travers l'expérience d'Alex ? C'est certain que ça me rappelle des moments d'entraînement intense, et ce sur la ligne de départ, où il fallait se concentrer au maximum. Impossible d'éteindre l'ardeur sportive des Harvey. Pas de doute, les bois, sentiers et flancs de montagne de Saint-Féréol n'ont pas fini de retentir de leurs cris de joie, foi de Pierre. Voilà, Pierre Harvey, on joue dehors. C'est donc écrit par Linda Priestley dans la revue Le Bel Âge, de février 2018.
Ils ne savent pas quand même à quel point ils ont influencé des jeunes de tout
Absolument,
âge, en fait,
oui,
même
oui.
dans ces années-là, au même titre que Gaétan Boucher, qui est à peu près dans le même temps que Pierre Harvey, d'ailleurs, effectivement. D'accord. Mais merci beaucoup, Franceline.
Tourne au bas du fleuve.
Oui, oui.
Des croustilles pêchées dans le Saint-Laurent.
Hein?
Oubliez les croustilles à saveur de bacon ou de pizza, les grignoteurs québécois pourraient bientôt croquer des chips de crevettes de Matane. La transformation de la crevette nordique engendre un grand volume de carapace et de restes de chair. En collaboration avec le Centre d'innovation d'aquaculture et des pêches du Québec, Paul Résiguier, étudiant en maîtrise en gestion de ressources maritimes de l'Université du Québec à Rimouski, a utilisé ses restes pour créer une croustille. En les broyant avec de l'amidon, on obtient une pâte de couleur rosée. Cuite à l'air chaud, elle se transforme en croustille en conservant non seulement le goût, mais aussi certaines propriétés nutritives de la crevette, riche en protéines et en oméga-3. Paul Resiguier souhaite maintenant qu'un entrepreneur commercialise ses croustilles. Ce type de chip est très populaire en Asie du Sud-Est. Reste à savoir si les palais du Québec seront prêts à accueillir ce produit à la fois local et exotique.
On peut les accompagner de croustilles aux cornichons et à nettes?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Bien, alors moi, oui, ben, c'est bouger plus, manger mieux. Adopter un mode de vie plus sain fait partie des intentions de 91% des Canadiens de 55 ans et plus, selon un récent sondage mené à travers le pays. Ce qui les incite le plus à rester actifs et à mieux se nourrir, d'abord leur propre bien-être, bien plus que leur entourage ou le souci de perdre du poids, pour 39% des répondants. En tête des activités de mise en forme préférées, le yoga domine, 32%, suivi des sports récréatifs, 23%, du vélo, 21%, et de la danse, 20%. Une forte majorité, 47%, préfèrent s'entraîner le matin et 31% disent le faire deux ou trois fois par semaine. Quelle énergie pour ces 55 ans et plus.
Oui, tout à fait, oui.
Bon, bienvenue aux réfugiés climatiques. On en arrive là. Hein. Mm-hmm. Les personnes menacées par la montée des eaux dans la région Pacifique pourraient trouver refuge en Nouvelle-Zélande. Les autorités de l'État insulaire voisin de l'Australie songent en effet à instituer un nouveau type de visa humanitaire destiné expressément aux réfugiés climatiques. Plusieurs archipels situés dans cette région du globe, Tuvalu et Kiribati notamment, risquent d'être engloutis sous les eaux si la communauté internationale ne parvient pas à freiner le réchauffement de la planète. La Nouvelle-Zélande serait le premier pays à offrir ce genre de visa, visa humanitaire.
Quand même. Franceline.
Alors, à cette époque où on parle souvent de régime, ma brève s'intitule « Toujours numéro 1 ». Chaque début d'année voit surgir son lot de diètes tendances. Paléo, cétogène, vegan, comptent parmi les approches alimentaires en vogue. Pourtant, c'est toujours le régime méditerranéen qui remporte la palme de l'équilibre alimentaire. D'après une méta-analyse regroupant 2 millions de participants, ce régime diminue les risques de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et même d'Alzheimer. De plus, il est associé à un meilleur taux de cholestérol sanguin et de glycémie, ainsi qu'à une tension artérielle saine et un tour de taille optimal. Son secret ? Miser sur les grains entiers, les végétaux, les bons gras dont l'huile d'olive et les légumineuses, en limitant considérablement les viandes rouges, les charcuteries et les sucreries. Ce mode de vie met aussi de l'avant le temps accordé aux repas en famille ou entre amis, une approche globale qui s'inscrit dans le plaisir.
Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous deux. Je vous rappelle que cette émission est du lundi au vendredi, toujours à 9h le matin, avec différents animateurs et collaborateurs. Deux excellents collaborateurs ici le lundi, mais on en a d'autres aussi durant la semaine. Et pour connaître en fait les heures de diffusion et de rediffusion, vous allez sur le site internet de canalm.vu avec un scvoix.com. Dans quelques minutes, on fait le tour des nouvelles avec l'émission Le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis. On vous souhaite une excellente semaine. Merci, Franceline. Merci, Roger.
Oui. À la prochaine, au revoir.
À la semaine prochaine.
La semaine prochaine. On dit la semaine prochaine? Oui.
Oui, ça va. Oui, absolument.
Merci à Jean-Sébastien, côté technique. Et on vous la souhaite, cette bonne semaine.